RFI 8h30, à Paris 7h30, en temps universel. Et Paul Lonsin-Spinelli, à la une de votre journal, Moussa Dadis Camara échappe à 20 ans de prison en Guinée.
L'ex-dirigeant va bénéficier effectivement d'une grâce présidentielle accordée par l'actuel dirigeant de transition Mamadi Doumbouya. Moussa Dadis Camara avait écopé de 20 ans de réclusion en juillet dernier pour son rôle de commandement en septembre 2009 lors du massacre de plus de 150 personnes lors d'un rassemblement de l'opposition à Conakry. La grâce présidentielle lui est accordée pour raison de santé. Au Soudan du Sud, le médiateur kényan Raila Odinga était à Djouba hier pour tenter d'éviter une escalade entre les camps du président sud-soudanais Salva Kiir et de son vice-président Riek Machar, assigné à résidence depuis mercredi soir. Des délégations de Kinshasa et du M23 accueillies en ce moment à Doha, au Qatar. C'est déjà l'Émirat du Golfe qui avait accueilli une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et Paul Kagame, son homologue rwandais. C'était il y a 10 jours. Et puis Madagascar commémore aujourd'hui le 78e anniversaire de l'insurrection de 1947. Moussa Dadis Camara ne passera pas 20 ans derrière les barreaux. Le chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya, a accordé hier une grâce présidentielle à l'ex-dictateur. L'ancien dirigeant qui avait été condamné fin juillet dernier à 20 ans de réclusion pour crime contre l'humanité en raison de sa responsabilité de commandement dans les exactions de 2009 au grand stade de Conakry. Un rassemblement de l'opposition avait alors été réprimé dans le sang, faisant plus de 150 morts. Lisa Fabian, la grâce accordée a été annoncée hier à la télévision nationale guinéenne.
C'est par la voix du ministre secrétaire général de la présidence que les Guinéens ont appris que Moussa Dadis Camara va bénéficier d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya. La proposition a été soumise par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, également chargé de l'application du décret. Cette décision est motivée par l'état de santé fragile de l'ancien dirigeant. À la tête de la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara a été condamné fin juillet 2020. À 20 ans de réclusion pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Cette semaine, 8 mois après ce verdict historique, les autorités guinéennes ont publié un décret annonçant la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre. À ce jour, les 400 parties civiles attendent toujours réparation.
Un récit de Lisa Fabian. Le Mali, froissé par la politique de refoulement de migrants en Mauritanie depuis plusieurs semaines, le pays mène en effet une campagne d'expulsion de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest réputés en situation irrégulière. Environ 1800 Maliens sont concernés. Alors hier, pour tenter de désamorcer les tensions, une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de transition Abdoulaye Diop a été reçue à Nouakchott par Mohamed Ould Al-Ghazouani, le président mauritanien Serge Daniel.
Premier message aux autorités mauritaniennes, le Mali n'a pas apprécié les conditions dans lesquelles environ 1800 de ses ressortissants en situation irrégulière vivant en Mauritanie ont été refoulés vers leur pays. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, devant la presse à Nouakchott.
Ce que nous avons au nom du président transmis à son frère, c'est la nécessité lors de ces opérations de refoulement de veiller à ce que ça se fasse dans les conditions qui respectent la dignité, en tout cas, qui est un traitement humain.
Les deux parties ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. L'ambassade du Mali en Mauritanie sera désormais associée de près au processus de refoulement. Identité des migrants maliens, leur protection juridique et de possibles recours à formuler. L'ambassade a également obtenu le feu vert pour désormais rendre visite aux Maliens en situation irrégulière détenus sur le territoire mauritanien, ce qui n'était pas le cas juste là. Le Mali a pu obtenir également, pour certains de ses ressortissants sans papier, le nombre n'est pas précisé, des facilités de régularisation. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Le départ d'une course de 2 semaines pour séduire les électeurs au Gabon. La campagne pour la présidentielle du 12 avril débute aujourd'hui. 8 candidats sont en piste et parmi eux, Brice Clotaire-Oligui Nguema, le chef de la transition qui est déjà au pouvoir depuis son coup d'état du 30 août 2023, qui avait renversé Ali Bongo. Ses soutiens organisent d'ailleurs aujourd'hui un meeting au stade de l'Amitié à Libreville, alors que le général occupe déjà une grande place dans l'espace public, François Mazet.
La campagne Oligingema promet plusieurs dizaines de milliers de personnes, gradins et pelouses remplies. Une démonstration de force autour d'un candidat qui a obtenu le ralliement de la quasi-totalité des forces politiques. Caciques du pouvoir déchu, anciens opposants et grandes voix de la société civile ont rejoint les plateformes et associations de soutien qui ont fleuri dans le pays. Pour toutes les chapeautées, le rassemblement des bâtisseurs a été créé, sa direction confiée à Ange-Kevin Zigou. Mais derrière la figure du renouvellement qu'est cet avocat connu pour son engagement contre l'ancien régime, les coordinations régionales ont un air de déjà-vu, intégrant de nombreux cadres de l'ex-parti au pouvoir. Une sorte d'état PDG sans le PDG, commente un des derniers convertis. Face au rouleau compresseur, Alain-Claude Bilibinzé ne retient pas ses coups contre la transition qu'il accuse de tromperie et de gaspillage des ressources. Il espère capitaliser sur les frustrations du quotidien, comme les délestages ou les mouvements sociaux, pour faire oublier son image de pilier de l'époque Ali Bongo. Jusque-là, les six autres candidats doivent se contenter des miettes. En termes de visibilité, ils ont 2 semaines pour tenter de se faire connaître et entendre de leurs compatriotes.
Pour mieux connaître les enjeux autour de cette campagne de la présidentielle du 12 avril au Gabon, François Mazet s'est aussi entretenu avec Florence Berthaud, spécialiste de l'Afrique centrale, enseignante à Sciences Po Paris. Entretien retrouvé quand vous le voulez sur notre site RFI.fr. Les Camerounais doivent aussi se rendre aux urnes cette année. La présidentielle notamment doit avoir lieu en octobre. Dans une lettre publiée hier, la conférence épiscopale du Cameroun appelle à un scrutin transparent, juste et apaisé. En fin d'année dernière et début 2025, plusieurs évêques avaient considéré qu'une candidature de Paul Biya, 92 ans, dont 43 passés au pouvoir, un 8e mandat, n'était pas réaliste. Certains hommes d'église avaient aussi dénoncé la mauvaise gouvernance et les conditions de vie difficiles des Camerounais. Le Qatar continue de s'affirmer comme médiateur clé pour le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos informations, des délégations de Kinshasa et du M23 sont actuellement à Doha. Des échanges avec les représentants de l'Émirat du Golfe sont en cours de part et d'autre. Le 18 mars dernier, c'était déjà au Qatar que Félix Tshisekedi, le président congolais, et Paul Kagame, son homologue du Rwanda, soutien du groupe armé, s'étaient rencontrés. Ils avaient alors été accueillis par l'émir Al-Thani. Au Soudan du Sud, l'espoir d'étouffer des tensions grandissantes entre le camp du président et celui du vice-président. Le président Salva Kiir, qui accuse Riek Machar d'avoir fait obstruction à l'accord de paix de 2018 en planifiant des attaques contre l'armée régulière sud-soudanaise dans le nord-est du pays début mars. Hier, c'est Raila Odinga, ex-premier ministre kényan, nommé médiateur par le président William Ruto, qui est arrivé à Djouba hier pour y rencontrer Salva Kiir. Écoutez.
Nous avons eu une discussion très approfondie avec le président Salva Kiir sur la situation sécuritaire et sur les raisons du problème. Il y a une inquiétude dans la région à propos de la situation sécuritaire dans ce pays. Le président Salva Kiir m'a fourni des explications et je vais aller faire un rapport aux autres chefs d'État de la région. La région est très inquiète de l'évolution de la situation au Soudan du Sud. Elle veut voir un retour à la normale et souhaite que ce pays joue un rôle actif dans la communauté d'Afrique de l'Est et dans le bloc régional IGAD. Nous avons donc espoir que cette question soit résolue dans le plus grand intérêt du peuple du Soudan du Sud et celui de la région.
Raila Odinga, médiateur kényan au Soudan du Sud. La commémoration aujourd'hui d'un événement traumatique de l'histoire coloniale malgache. Ce 29 mars marque l'anniversaire de l'insurrection de 1947. Un soulèvement de rebelles qui avait commencé à Mouramang, c'est à une centaine de kilomètres de la capitale. Le mouvement s'était ensuite répandu à toute la côte est de l'île. En réponse, 18 000 soldats français avaient alors répliqué. Pendant 21 mois, certains vont exécuter sommairement, torturer des civils et même brûler des villages entiers. Chez les Tananarivien, cet événement reste un souvenir qui se transmet toujours de génération en génération. Pauline Le Troquier.
Le 29 mars, nos ancêtres étaient morts à cause des Français quand on a fait la guerre.
C'est avec ces mots que Miarn, 10 ans, résume l'histoire de mars 47. Son école, située à Ambudzatouv, en plein cœur de la capitale, donne directement sur la stèle commémorative de l'insurrection. Mais à la différence de ses camarades, ce jeune garçon connaît bien le symbole de ce monument. Lui a été bercé par le récit familial des événements.
Mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la guerre. Et il est mort. C'était ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Chaque 29 mars, on vient dans sa tente pour célébrer sa mémoire et dire qu'il est dans nos cœurs.
Chaque année, le 29 mars est décrété férié et chômé dans le pays. À la télévision et à la radio, des chansons célèbrent l'héroïsme des combattants malgaches. De quoi réveiller un sentiment de patriotisme légitime et nécessaire pour Vloul. Mais cette passante pointe une récupération politique de la classe dirigeante.
Cet événement est utilisé par les politiciens pour prouver qu'ils sont patriotes, alors que selon moi, ils ne le sont pas vraiment. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve le peuple, je pense que la classe politique fait plus attention au paraître qu'au bien du peuple.
Ces événements représentent, dans la mémoire collective, l'un des épisodes les plus douloureux de la colonisation de l'île. Sans présenter d'excuses officielles, l'ancien président français François Hollande avait reconnu en 2016 les crimes commis par la France. À l'époque, la répression coloniale avait fait entre 12 000 et 23 000 victimes, selon les historiens. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Une pièce du puzzle patrimonial ivoirien de retour au pays. Le Japon a rétrocédé 6 objets culturels à la Côte d'Ivoire en début de semaine. La ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remarque, a assisté à une cérémonie en cet honneur à Tokyo. Les pièces en question sont arrivées à Abidjan jeudi soir, Binta Diagne.
Il s'agit de 6 objets culturels appartenant au groupe Akan. Il y a là un couple de statues baoulées, un masque sénoufo symbolisant la maternité. À cela s'ajoutent 2 chiwaras en bronze et un ensemble de 21 objets servant à peser l'or qui, eux, sont restés à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tokyo. À l'origine, ces objets culturels avaient été offerts en 1993 par le président Félix Houphouët-Boigny à la cour impériale du Japon. Plus de 30 ans plus tard, la princesse Takamado a décidé de les rétrocéder à la Côte d'Ivoire, notamment pour des raisons spirituelles. Dans la tradition japonaise, le masque est considéré comme un esprit, il doit revenir dans ses terres, explique une source proche du dossier. Les objets culturels rétrocédés sont dans un très bon état, estime une responsable du département de la culture. Prochaine étape, les autorités ivoiriennes vont formellement informer les communautés concernées du retour de ces objets en Côte d'Ivoire. Ensuite, une réflexion va être menée pour déterminer le lieu où ils seront conservés. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Un prochain point sur l'actualité africaine, ce sera dans un peu plus de 3 quarts d'heure. Mais avant cela, Julien Coquel-Rouem pour la fin des RFI Matin.
Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, Paul Lonsin-Spinelli. Merci beaucoup.